Radio Okapi.
Le journal Pascal Massirica.
À la une de l'actualité ce midi, à Beni au Nord Kivu, le prix du carburant est passé de 2000 à 2400 francs congolais depuis une semaine. À la base, selon les importateurs, une relative pénurie occasionnée par le retard dans la livraison de produits. Reprise des activités, des audiences à la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental sur le meurtre de deux experts des Nations Unies en 2017. Arrêté à Kinshasa, puis acheminé à Kananga, Sosten Kambidi, correspondant de l'AFP et d'actualité.cd, a été entendu hier jeudi après-midi comme renseignant. Notre invité, c'est le professeur Julien Kilanga. Cet ancien recteur de l'université de Lubumbashi a été investi membre de l'Académie des sciences, belles lettres et arts en France. Il est l'unique Africain qui siège dans cette institution du savoir. Madame, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, le prix du carburant est passé de 2000 à 2400 francs congolais depuis une semaine dans la ville de Beni. Les importateurs expliquent cette hausse de prix par une relative pénurie occasionnée par le retard dans la livraison de produits. À Beni, c'est une correspondance de Guylaine Kassassia.
C'est depuis jeudi dernier que le consommateur a commencé à observer la hausse du prix à la pompe à travers la ville. Actuellement, un litre de carburant se vend à 2000 ou 2100 francs congolais dans les stations-service de Beni. Auprès de Kadhafi, il faut débourser jusqu'à 2200, voire 2400 francs congolais. Moïse revend de l'essence en détail au quartier Matongi. Nous revendons actuellement à 2200. Avant, nous revendions à 2000 et 1950 les litres. Nous apprenons qu'il y a carence d'essence au niveau des stations et même au dépôt. Avant ces situations, nous achetions un bidon à 45 000, aujourd'hui c'est 52 000 francs. C'est pourquoi nous avons aussi haussé le prix. Les conducteurs de moto-taxi sont en train d'acheter sans aucun problème. Pour le moment, la hausse du prix du carburant n'a pas eu de conséquences sur le prix du transport. C'est dont se plaignent notamment les conducteurs des taxis moto. Roger est l'un d'eux.
Les courses qui étaient à 500 restent toujours à 500. Alors que les litres qui étaient auparavant à 1500 revient maintenant à 2200.
Le président des importateurs de produits pétrolier à Beni reconnaît une certaine pénurie dans la ville depuis la semaine dernière. Il explique que les camions-citernes qui approvisionnent la ville à partir du Kenya et Rwanda freinent encore sur la route, ce qui a occasionné une rareté de produits pétroliers à Beni. Beni, Glen Kassassia, Radio Okapi.
Carence de poissons ces jours-ci à Idiofa depuis l'interdiction de la pêche suite à la pollution de l'eau de la rivière Kasaï. Le président de la société civile locale plaide pour l'assouplissement de cette mesure. Jean-Marie Bels-Eling sollicite par conséquent l'implication du gouvernement provincial pour une solution à Bandunduville et Irène Boma.
C'est la famine qui bat son plein dans les territoires du Djofa. On ne trouve plus de poissons au marché et la population de cette partie de la province du Kwilu est devenue totalement végétarienne, a déclaré le président de la société civile locale. À l'en croire, cette situation est due à la mesure interdisant la consommation des poissons de la rivière Kasaï qui a été polluée depuis quelques mois. Maître Jean-Marie Bels-Eling qui alerte appelle les gouvernements tant provincial que national à pouvoir assouplir cette décision afin de sauver cette population qui ne sait plus à quel saint se vouer.
La vie est pénible parce que s'il n'y a pas de poissons, nous n'avons pas de grandes forêts qui nous produisent des gibiers. Donc on ne vit que des poissons et plus on a interdit des poissons. Quand vous arrivez au marché, les étalages sont vides et vides. On vit de feuillage, mais le reste c'est des viandes. Même les poissons de mer, à un moment, il n'y en a pas. Des chinchards, il n'y en a pas. S'il y a lieu d'assouplir cette mesure-là pour permettre à la population de bien vivre, après demander au gouvernement provincial et national d'assouplir cette
Par rapport à cet appel, la réaction du gouvernement provincial du Kwilu vous sera communiquée ultérieurement. Pour rappel, cela fait déjà plus d'un mois que cette rivière a retrouvé sa coloration habituelle, a fait savoir le président de la société civile du Djofa. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Économie encore. L'Office national des produits agricoles du Congo dispose désormais d'une nouvelle usine moderne de torréfaction du café acquise sur fonds propres d'une valeur de plus de de 300 000 euros en partenariat public-privé avec la Congolaise du commerce et des investissements. Elle a été inaugurée hier jeudi à Kinshasa par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Les responsables de l'ONAPAC assurent que cette usine va permettre la relance de la consommation locale du café en RDC. Le compte-rendu de Billy Van Lutumba.
Située sur l'avenue Bobozo, 14e rue Limete Kingabwa, la nouvelle usine, ont affirmé les dirigeants de cet office, a pour ambition de permettre à la RDC de retrouver son niveau de production de café estimé à 120 000 tonnes en 1989. Production qui se situe actuellement à 8 919 tonnes seulement, considérant les chiffres publiés l'an dernier lors de la journée internationale du café commémorée chaque 1er octobre. Au Premier ministre de saisir alors de cette occasion pour encourager l'ONAPAC et son personnel pour son dévouement et surtout son esprit d'abnégation.
Nous sommes venus pour montrer qu'il y a de l'espoir au Congo. Il y a de l'espoir lorsqu'on peut voir des agents comme vous qui, malgré toutes les difficultés, vous ne vous êtes pas découragés. Vous êtes restés debout et vous démontrez aujourd'hui que là où il n'y avait plus rien, c'est possible de produire localement. C'est possible d'exporter nos produits. Et l'ONAPAC, aujourd'hui, nous le démontre à travers vous.
Rappelons que l'ONAPAC, Office National des Produits Agricoles du Congo, a pour mission de promouvoir la culture et le développement des débouchés intérieurs et extérieurs des produits agricoles d'exportation et leurs dérivés, parmi lesquels le café, le thé, le cacao. L'Office contrôle également le traitement, l'usinage et le conditionnement de ces produits.
L'actualité, c'est aussi la reprise ce vendredi au Maniema de la chasse dont les activités avaient été fermées de juillet au 30 septembre. Des précisions à Kindu avec le ministre provincial de l'Environnement, Alexis Lumpumpu, plaide pour le respect strict des espèces protégées. Ces propos ont été recueillis par Florence Kizalunga.
En application des dispositions de loi portant réglementation de la chasse en République démocratique du Congo et de l'arrêté relatif aux mesures d'exécution de la loi précitée, ainsi que l'arrêté provincial portant fixation des calendriers de la chasse dans la province du Maniema, il est porté à la connaissance de l'opinion publique les activités de la chasse qui ont été fermées depuis le 1er juillet au 30 septembre 2021. Étant donné que cette période est arrivée à terme, les activités de la chasse sont ouvertes sur toute l'étendue de la province dès ce 1er octobre 2021. À cet effet, le coordinateur provincial de l'environnement, les administrateurs des territoires, les chefs de secteur et chefferie, ainsi que tous les chefs de groupement, chacun à ce qu'il concerne, est chargé de porter large diffusion dans leur entité respective, dans le respect strict des espèces protégées.
Justice à présent, les audiences ont repris à la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental sur le meurtre des deux experts des Nations Unies en 2017. Arrêtés à Kinshasa et acheminés à Kananga, Sosthène Kambidi, correspondant de l'agence France Presse et d'actualité.cd, a été entendu hier jeudi après-midi comme renseignant. Il a été confronté à Ben Israël Ntumba, un autre journaliste détenu autour de la première vidéo du meurtre de Zaïda Catalane et de Michael Sharp. Pour en parler, retrouvons à Kananga François Kadima.
La justice militaire veut avoir de la lumière sur la première vidéo du meurtre des deux experts de l'ONU et les circonstances dans lesquelles Sosthène Kambidi et Ben Israël Ntumba sont entrés en sa possession. Invité en premier, Sosthène Kambidi a indiqué avoir vu la vidéo pour la première fois un dimanche du mois d'avril 2017 entre la main d'un avocat, Maître Prosper Kamalou, un frère de son église. C'est celui-ci qui lui a proposé de la prendre et la diffuser. Le journaliste proposa de remettre plutôt la vidéo aux autorités. C'est en répondant au rendez-vous pris avec Justin Milunga, à l'époque vice-gouverneur du Kada central, qu'il dit avoir trouvé Ben Israël Ntumba, un autre confrère. Et là, c'est Maître Kamalou qui dit avoir reçu la vidéo de Ben Israël Ntumba. À cette audience, la cour a décidé d'inviter Ben Israël Ntumba par rapport à cette version des faits. Lui a plutôt cité Roger Bouchabou comme première personne qu'il avait vue et qui détenait la vidéo. L'affaire a été renvoyée au mardi 5 octobre où Maître Prosper Kamalou et Roger Bouchabou y sont attendus pour une confrontation par rapport à toutes ces versions. Notons que lors de cette séance, la question des appels téléphoniques entre Sosthène Kambidi et l'ancien gouverneur Kasa Central, Alex Kandé, un jour après le meurtre, a été abordé. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Et puis, les conditions d'hébergement des malades tuberculeux multirésistants au pavillon militaire de l'hôpital de Kinkanda laissent trop à désirer. Nous sommes dans la province du Congo central. Madame Marie-Louise Kinzola Mafuta, point focal de la LNAC, dit avoir évalué déjà les besoins avec l'aide d'un expert. Elle prépare à ces sujets un plaidoyer pour améliorer les conditions d'accueil. Elle est au micro de Nana Pluriche Mambou.
Nous voulons organiser une grande activité à Matadi dans le cadre des mauvaises conditions d'hébergement des malades tuberculés multirésistants qui sont internés à l'hôpital provincial de référence de Kinkanda. Nous avons visité une partie du pavillon militaire. Les malades multirésistants de la tuberculose, ils n'ont pas de bon lit, ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'ont pas de toilettes. Et la salle n'est pas cloisonnée. Nous voulons cloisonner quand même la salle pour éviter aussi des vols parmi les malades. Donc nous voulons séparer les hommes et les femmes en mettant aussi des portes. Nous sommes en train de solliciter la signature de son excellence, monsieur le gouverneur des provinces, juste pour signer les invitations. La tuberculose est une maladie infectieuse qui peut toucher toutes les personnes. Et cet endroit que nous cherchons à réhabiliter, c'est vraiment un passage obligé pour nous tous. La province du Congo central, c'est parmi les provinces qui sont très touchées par la tuberculose. Nous sommes deuxième pays parmi les pays touchés en Afrique et au monde, nous sommes 8e pays.
Et puis, en RDC, environ 12% des détenus sont malnutris et en moyenne, un décès est enregistré chaque jour dans une dizaine des prisons de 8 provinces de la RDC, dont la ville de Kinshasa. C'est ce que révèle en tout cas le rapport de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Ce rapport a été partagé lors de la réunion qui a été convoquée hier jeudi par le ministre d'État, ministre de la Justice, par vidéoconférence et à laquelle ont pris part les dirigeants de la MONUSCO et le gouverneur de province concernée à Goma, Bernard Denyangui.
Huit provinces qui abritent les 12 prisons couvertes par l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO sont Kinshasa, Congo central, Nord Kivu, Tanganyika, Sud Kivu, Ituri, Kasai central et Kasai. Le constat, après des visites dans ces maisons carcérales, selon les responsables de la MONUSCO, est amer. Près de 12% des détenus souffrent de la malnutrition, parfois sévère, avec une moyenne d'un décès par jour. La ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a initié cette réunion en réponse à ces rapports, veut redynamiser la collaboration entre les autorités centrales et provinciales concernant l'approvisionnement des prisons en denrées alimentaires, ainsi que la gestion des établissements pénitentiaires. À l'issue de cet atelier, il est envisagé qu'une solution durable sera trouvé pour pallier l'insuffisance des effectifs des policiers pour la sécurisation des prisons. Un cadre de dialogue a aussi été mis en place, comprenant le gouverneur de province, le ministère de la Justice et la MONUSCO pour une gestion concertée des maisons carcérales dans le pays. Goma, Bernard Denyangui, Radio Kapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, plus de 2000 enseignants d'Arou dénoncent la décision prise par la Rao Bank qui les oblige à aller toucher leur salaire à Ouattia, cité située à plus de 180 km d'Arou Centre dans la province voisine du Haut-Ouélé. Pour eux, cette décision les expose à l'insécurité. Leur position est soutenue par la société civile locale. Le point de la situation avec vous, Jean-Claude Lokidile.
Ces enseignants n'ont pas reçu leur salaire du mois de septembre dernier. Contrairement au mois précédent, ils étaient payés sur place à Arou. Le président du syndicat de ces enseignants dit que cette situation leur cause des préjudices car ils ne sont pas en mesure de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Léonard Ndikou plaide pour que ce problème soit vite résolu pour permettre aux enseignants de profiter des modiques salaires qu'ils reçoivent mensuellement de l'État.
Ce que nous gagnons, c'est dans les 180 000 francs. Les voyages ou aller-retour, ça fait environ 20 dollars. Pour quelqu'un qui est du côté de Sud-Soudan, il doit faire dans les 300 km pour aller toucher son salaire alors qu'il y a des banques à Arou.
Du côté de la province éducationnelle Ituri 3, le responsable intérimaire de l'enseignement dit ne pas être saisi officiellement de cette décision de la Rao Bank. Luma Guagore estime que cette situation met en danger les enseignants qui doivent aller chercher leur salaire à une centaine de kilomètres de leur lieu de travail.
Nous n'avons pas un soubassement qui nous autorise cela. Donc, en cas où un enseignant va, nous ne pouvons pas l'autoriser à aller là-bas ni de notre bureau pour aller là-bas, on ne peut pas l'autoriser parce qu'en cas où il y a un problème, nous ne serons pas responsables.
La société civile d'Arou craint que cette cacophonie ne vienne perturber la rentrée scolaire prochaine. Le responsable local de la Rambank n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet pour l'instant. Bounia, Jean-Claude Loki, dit les Radio Okapi.
Actualité internationale.
Ce vendredi, le président américain Joe Biden tient une importante promesse de campagne. Il fait passer à 125 000 par an le plafond des réfugiés qui peuvent entrer aux États-Unis d'Amérique, et ce alors que la question de la politique migratoire continue de diviser au sein du Parti démocrate. L'Éthiopie va expulser 7 responsables des Nations Unies, a déclaré jeudi après-midi le ministère des Affaires étrangères à Addis Abeba. Ces diplomates ont été déclarés persona non grata et doivent quitter la capitale dans les 3 jours. Accusés d'ingérence dans les affaires intérieures du pays, ils font surtout les frais du bras de fer entre le gouvernement et les organisations humanitaires qui s'alarment de la situation dans la province du Tigré.
L'invité.
Notre invité, c'est le professeur Julien Kilanga. Cet ancien recteur de l'université de Lubumbashi a été investi le 24 septembre, membre titulaire de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts en France. Il est l'unique Africain qui siège dans cette institution du savoir. Il s'entretient à ces sujets avec Jean Gandou.
Professeur Kilanga Moussinde, bonjour. Le 24 septembre dernier, vous avez été investi comme membre titulaire de l'Académie de sciences, belles-lettres et arts d'Angers en France. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette académie?
L'Académie des sciences, belles-lettres et arts d'Angers a été créée en 1685 grâce à l'amitié d'un conseiller, François Grandet, qui a pu obtenir de Louis XIV la faveur sollicitée pour la création de cette académie. Et cette autorisation a été officialisée par lettre patente signée à Versailles en juin et enregistrée au Parlement le 7 septembre suivant. Actuellement, l'académie est présidée par Pierre Bois. On a comme instance le conseil d'administration, le bureau de l'académie, le président et les présidents de section. Et nous distinguons la section art, histoire, lettres, sciences de la vie, économique, sciences humaines et sociales et technologie. On a particulièrement 60 membres titulaires et une centaine de membres associés. Et pour l'ensemble, bien sûr, ceux qui ne sont plus actifs, on a des membres titulaires émérites, des membres titulaires honoraires. L'Académie publie le bulletin de l'Académie et les mémoires de l'Académie. Le domaine géographique de l'Académie, c'est le pays de la Loire. Et ces réunions qui interviennent 2 vendredis par mois.
Qu'est-ce qui a milité en faveur de vous pour que vous soyez membre titulaire de cette académie?
Qu'est-ce qui a milité en faveur de mon élection? J'ose imaginer qu'il s'agit bien sûr de mon passé, de toutes les activités que j'ai eu à réaliser tout au long de mon parcours, mon passage à la francophonie, mes recherches et mes publications en tant que chercheur dans le domaine des langues, dans le domaine de la linguistique et comme écrivain francophone. Cela a beaucoup joué pour mon élection ou mon intégration dans cette académie comme membre titulaire.
Quel rôle allez-vous y jouer?
Alors, quel rôle je joue là-dedans? Eh bien, lors de la cérémonie de mon intronisation, après avoir présenté mon prédécesseur, François Pigné, j'ai dû présenter une communication qui présentait les contours de l'action de la francophonie et de la langue française. Et en fait, ma contribution au niveau de l'académie consistera bien sûr à contribuer au rayonnement de la langue française et réaliser des travaux de recherche dans le domaine de la francophonie. Et bien sûr, comme écrivain, j'aurai aussi un grand rôle à jouer là-dedans.
Et quel pourrait donc être le bénéfice de la RDC ou tout simplement de l'intellectuel congolais du fait de votre présence dans cette institution du savoir?
Alors, quel bénéfice la RDC peut trouver dans ma présence dans cette institution? Il y a d'abord la visibilité de la RDC dans cette institution scientifique, cette institution du savoir, et ma présence pourrait contribuer à faire rayonner l'image de la République démocratique du Congo. J'imagine seul Africain africains dans cette institution, ça pourrait normalement servir au rayonnement de l'Afrique entière.
Et pour terminer, quelle différence y a-t-il entre l'Académie de sciences, belles lettres et arts et l'Académie française?
L'Académie française est fondée par Richelieu en 1635. Ça a été enregistré au Parlement de Paris en 1637. C'est par des lettres patentes signé par Louis XIII et qui consacre le caractère officiel d'une institution parisienne avec commission à caractère national pour jouer le rôle important, celui de donner à la langue française ses moyens. La plupart de ses missions, c'est entre autres la défense de la langue française, le dictionnaire de l'Académie et ainsi de suite. Et cette institution compte 40 membres, dont un secrétaire perpétuel. Et pour le moment, il en reste 34. Il y a 6 places vacantes laissées par quelques membres qui sont décédés. Les deux institutions coïncident évidemment comme institutions savantes, en fait, sociétés savantes, bien sûr, en fonction de leur cadre, leur domaine d'action. L'Académie d'Angers fonctionne dans le domaine de Maine-et-Loire et l'Académie française a un caractère national.
Professeur Julien Kilanga, je vous remercie.
Merci, cher ami, de vos questions.
C'était l'invité de Radio Okapi, le professeur Julien Kilanga, l'ancien recteur de l'université de Lubumbashi, qui a été investi membre titulaire de l'Académie des sciences belles lettres et arts d'Angers en France. Il était interviewé par Jean Gandoué. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 12h20. Merci à Ben Kabamba et Richard Junior Kamuga qui m'ont accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net.